Et de l'autre côté de l'Em, le mardi, c'est le plateau des Marottes. Ça m'a l'air d'être le bazar aujourd'hui, là. Les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous. Des idées de sortie dans le Finistère aussi. Aujourd'hui, au micro, il y a Marie Cultive et sa chronique jardinière. Et oui, même en décembre, nous n'avons peur de rien sur Transistor. Et il y a aussi David Andrazi qui, lui, nous fait jouer au show avant Noël. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Bonjour Véronique.
Marie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le jardin au mois de décembre? Bon, on n'avait pas fini avec les haies, je crois. On pourrait continuer avec les haies.
Oui, on pourrait. On pourrait tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ah oui, bah alors elle a une super voix, Marie, aujourd'hui. Une voix de radio.
Que sosie vocale de Jenny Joplin.
Mais qui fait du jardin quand même.
Exactement. Bien couverte.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des haies?
Eh bien, on peut continuer à planter les haies. Où je m'étais arrêtée?
On s'était arrêté aux variétés de fruitiers, ou, enfin de fleurs déjà, des haies variées.
Ah oui, tout à fait.
Bon, on avait choisi des espèces pour mettre dans sa haie. Bon,
tout à fait.
Voilà.
Et ben, on peut tout à fait réfléchir à planter une haie aussi comestible, avec des plantes comestibles. Donc du coup, on va plutôt partir sur du cassis, sur du groseillier à grappoux, à macro. On peut tout à fait aussi rajouter avec un arbrisseau qui monte pas très très haut et qui se taille pas forcément, et ben le noisetier, tout simplement. On peut partir aussi avec de l'aubépine qui pourra nous servir ensuite à accueillir des petits oiseaux. Mais attention, parce que l'aubépine est quand même considérée comme une plante qui a tendance à un peu coloniser. Donc,
Ah oui, c'est, puis ça monte haut, hein, ça oui. peut monter haut l'aubépine, puis ça pique après.
Ça
hein.
pique bien, ouais. Mais c'est pas grave, on peut toujours penser aussi à l'arbousier, l'arbre à fraises.
Ouais, je trouve pas que ça a grand goût. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des arbouses?
Ah, on peut faire de la confiture. De la confiture d'arbouse.
Ok.
Ouais.
J'en ai un, mais je fais jamais rien.
C'est bien dommage. Après, on peut aussi partir sur une haie qui va fleurir toute l'année. Donc du coup, mélanger aussi différentes espèces en ayant aussi, par exemple, du forsythia, qui est...
Ah oui, on avait parlé de la Véronique la dernière fois, mais
ouais.
Là, ça fait du jaune, le forsythia.
Forsythia, tout jaune, à la sortie de l'hiver. Donc c'est un des premiers arbustes qui va fleurir, qui fleurit beaucoup, qui se taille très bien aussi une fois arrivé à l'automne. Ensuite, on va avoir tout un panel de plantes qui va fleurir au printemps, donc des céanotes, on va avoir des caryoptéris qui vont fleurir bleu pour le coup. On va avoir des spirées aussi, qui sont notamment la variété Van Houtti, qui fait des petites panicules blanches qui attirent les pollinisateurs.
C'est des grappes, c'est quoi les panicules?
Des panicules, c'est des petites, des petites grappes un peu en forme de cône, donc des cylindres cônes, et donc du coup qui sont très très jolies.
Mais là, c'est un peu tard pour les planter tout ça, non?
Non, on est, on commence à arriver sur la période de froid là. Pour les planter, ça va être un peu tard. Il aurait fallu les planter, il y a 3 semaines, c'était l'idéal. Après. Fin d'hiver, début de printemps, ça peut se faire. Là, on va plutôt préparer le moment où on va planter. Donc, on va préparer le sol en apportant du compost. On va pouvoir apporter aussi du...
Oui. Non, mais parfois, le micro s'interrompt. C'est pénible.
Je crois que ça avait coupé. On va pouvoir apporter aussi tout ce qui va être du fumier pour préparer des feuilles mortes, toujours pailler le sol, hein, jamais le laisser à nu. Et donc, du coup, pour l'ameublir pendant l'hiver. Et donc, au printemps, comme ça, il y aura juste à décompacter le sol pour pouvoir planter ces arbustes.
Est-ce qu'on peut encore tailler ces petits fruitiers ou pas? C'est trop tard, là ou... cassis, tout ça.
On commence à être tard, mais le cassis repart très très bien. On peut y aller sans problème. Moi, le cassis, je le taille quasiment toute l'année. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Et on peut même le diviser à cette période-ci.
À des boutures, ça marche très bien.
Ouais. Alors, les boutures et aussi la division de touffes, parce que le cassis a tendance à vraiment faire pas mal de drageons.
Et comment on fait pour diviser son cassis?
Alors, on s'équipe d'une belle bêche, bien tranchante, et on y va, quoi.
Ah oui,
taille dans le vif.
Au pied là, claque et ça lui fait rien. Ça ne le tue pas.
Ah non, absolument pas. Ce qu'il tue pas le rend plus fort d'ailleurs.
Le cassis est increvable.
Ah bah carrément.
Et c'est bien de tailler un cassis pour avoir plus de fruits, enfin, c'est qu'il y a un intérêt.
Ouais ouais, carrément. Bah déjà pour éviter qu'il colonise tout, mmh. Et puis aussi ça le stimule. C'est le moment aussi de tailler les framboisiers là. On va pouvoir les rabattre. Donc quand on dit rabattre, c'est les couper à 30 cm. Et vous pouvez aussi les délimiter.
Ouais, oui, mais parce que c'est ça, le framboisier, ça s'incruste vraiment partout. Quoi. Mais 30 cm, mais pas moins. Enfin, si on coupe tout à ras, ça ne va pas. Quoi.
Vous pouvez le couper à moins, mais vous n'avez pas de certitude qu'il reparte. Et en plus, souvent, quand on le coupe à moins, le premier coup de tondeuse ou le dernier coup de tondeuse, il passe dessus.
Oui, c'est donc, vrai. Oui, parce qu'on l'oublie.
Quand c'est les rejets, il n'y a pas de souci. Quand c'est le plan mère... Donc le plan principal,
celui qui donne les fruits, oui, ouais. C'est dommage.
C'est d'accord. Un peu dommage.
Oui, j'avais juste une question subsidiaire sur les haies, de grimpantes. Enfin, c'est un concept, c'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée?
Eh ben ça, j'ai pas trop d'idées sur le sujet. En fait, les haies de grimpantes, c'est pas mal parce que ça prend quand même moins d'ampleur en termes de
Que le chèvrefeuille, ça en prend partout, mais.
Ben oui, mais parce que du coup, il a tendance à aller s'agripper à d'autres plantes. Mais si vous mettez juste une treille ou un claustra ajouré et que dessus, vous mettez le plant de grimpante, donc que ce soit le chèvrefeuille, que ce soit le rosier grimpant et qu'il n'y a pas forcément grand-chose autour, il va faire quand même beaucoup moins que, par exemple, une haie de thuya ou une haie de laurier, comme on pouvait avoir... ou une haie de cyprès qui était quand même très très profonde. Et donc c'est l'avantage, maintenant qu'on a des plus petits jardins, d'avoir ces haies grimpantes qui sont quand même moins profondes, enfin moins larges.
Et il y a des grimpantes qui gardent leurs feuilles?
Oui, oui, vous avez...
Hiver, je veux dire.
Oui, oui, le chèvrefeuille déjà, qui est semi-persistant, le rosier grimpant, qui va garder son feuillage. Vous avez certaines variétés de clématites, pas toutes. Vraiment, il y a une ou deux variétés de clématites qui vont garder leur feuillage. Et ensuite, le lierre, qui reste quand même une plante qui a tendance à nourrir les oiseaux l'hiver quand on commence à avoir froid. Donc, et qui abrite une sacrée variété, une sacrée biodiversité. Donc c'est plutôt chouette. Puis ça laisse un écran vert qui n'est quand même pas non plus désagréable.
Davy, une question pour Marie?
Ah non.
Sur les haies?
Non, bah non, pas. C'est magnifique ce qu'elle dit.
Marie, autre chose à ajouter pour les travaux d'hiver
C'est
au jardin.
C'est le moment de surtout pas oublier de faire l'entretien de ces outils, notamment les outils motorisés, qu'on a tendance à un peu sursolliciter toute l'année et puis se dire je ferai la vidange plus tard, je changerai les filtres plus tard. C'est vraiment le moment et c'est important de le faire parce que du coup vous augmentez la durée de vie de vos outils.
Ouais, ça c'est quand on a des moteurs thermiques. Voilà. Ouais. Après, on a une petite tondeuse électrique, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie la lame.
Quoi. Ouais, un nettoyage, un affûtage de la lame.
Et les outils manuels, pareil?
Pareil, ouais. Après, moi, j'ai tendance à, quand même à nettoyer mes outils après chaque cours de jardinage, notamment. Je nettoie ma fourche bêche, je nettoie ma tranche pour pas que ça soit abîmé. Et puis les scies aussi, toujours bien les graisser entre chaque usage pour pas qu'elles rouillent.
Et il n'y a pas un entretien particulier pour les serres, comme les cholets ou des choses comme ça?
Les cholets?
Ouais, les enduire de chaux pour pouvoir faire un effet antifongique ou ce genre de choses. Non, il me semblait avoir lu ça quelque part. Il n'y a pas un entretien, quelque chose de particulier pour les serres?
Pour les serres, c'est de vérifier qu'elles sont bien ancrées dans le sol, pour les tunnels notamment, pour éviter que la bâche puisse s'envoler avec des éventuelles tempêtes.
Du tout. Qu'est-ce que vous dites?
Bien vérifier qu'il n'y a pas de trous d'accro aussi. Et pour ce qui est de l'antiparasitaire, si vous n'avez rien dans la serre, moi je vous encourage à nettoyer, notamment avec un peu de vinaigre, donc pas le sol. On nettoie pas le sol, nettoyer la bâche, mettre un petit coup de nettoyage, et notamment parce que pour pas qu'elle verdisse et qu'elle devienne opaque, et donc du coup qu'il y ait moins de lumière qui entre.
Et le vinaigre, ça marche, ça suffit?
C'est un anti-fongique aussi, c'est un très bon nettoyant le vinaigre. Ouais.
Et on répare les bâches avec quoi? T'as quelque chose?
Il y a du scotch de bâche qui existe,
Mais qui est transparent aussi un petit peu?
Oui, tout à fait. Ouais, parce que si vous commencez à mettre du gaffeur comme ils mettent sur les concerts, ouais. Du scotch noir, c'est quand même moins pratique.
C'est sûr.
Non, ouais, du scotch transparent, ça existe. Et il y a même, après, vous pouvez doubler avec de la bâche armée aussi.
Ah, on peut faire ça.
Ouais, vous pouvez. Donc généralement, c'est une bâche qui est quadrillée, qui sert plutôt à mettre sur les bords de piscine, mais qui coûte quand même pas très cher et après, avec un coup de silicone transparent notamment. Ça, c'est vraiment du bricolage de bricoleurs du dimanche qui aiment bien vraiment que ça tienne. Et sinon, le scotch répare-bâche, ça existe.
Ouais, okay. Tout à fait. Merci Marie.
On n'a rien Véronique.
On a bien jardiné, on va jouer avec Davy. Alors Davy, tu as deux propositions, c'est ça?
En fait, on avait réfléchi ensemble à proposer des jeux pour Noël parce que ça arrive bientôt, donc ça serait bien. Et je me suis dit que je pourrais faire un petit focus sur un auteur qui s'appelle Antoine Boza.
Il y a des auteurs de jeux, c'est vrai, on l'oublie toujours, hein, mais c'est comme pour les bouquins.
Alors, pour t'expliquer un petit peu, Antoine Boza, c'est quelqu'un qui est né en 78 à Valence, et il est surtout connu pour des créations comme Seven Wonders of Takenoko, on en parlera tout à l'heure. Donc, il a fait des études en chimie, en informatique, il a obtenu un master en jeux vidéo à Angoulême en 2003.
Ah bon, ça existe
master. Bien sûr.
Wow, incroyable.
Bien sûr. Il a travaillé comme professeur des écoles avant de se consacrer complètement à la conception de jeux de société en 2010. Et justement, c'est là... parce qu'il a gagné tous les prix possibles et inimaginables pour Seven Wonders. Et donc, il fait aussi un peu de jeux de rôle, de jeux vidéo et compagnie. Bref, c'est un chouette type et il est très, très, très productif. Alors, je t'ai fait une petite liste de jeux qu'on peut trouver quasiment dans toutes les médiathèques du coin. Je n'ai pas fait le tour de toutes les médiathèques, mais je sais qu'à Polissonance, ils en ont. Je sais qu'à la médiathèque de Pont-de-Buis, ils en ont. Je sais même qu'à la bibliothèque, où il y a des jeux, tu sais, à Rosnoën,
ils y sont
presque
aussi.
Tous.
Okay.
Et donc,
ce sont donc des classiques.
C'est quasiment des classiques dans le jeu moderne. Et je les ai un peu classés par ordre de difficulté. Et comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Alors, le premier jeu, ça s'appelle La chasse aux monstres. C'est un jeu de 2009 qui a été illustré par Annick Lacasse. Alors, je sais que ce jeu, on le trouve à Polissonance. C'est un petit jeu sympathique qui aide les enfants, en fait, en bas âge, à lutter contre, tu sais, les mauvais rêves, les cauchemars et tout ça. Donc, il y a tout un petit process où on a des monstres et, en fait, ils sortent du placard et on s'amuse à les éliminer gentiment. Ça permet à l'enfant un petit peu de se libérer de cette contrainte. Donc, c'est parfait pour jouer juste avant d'aller au lit. Il y a d'autres jeux
donc
comme ça.
Donc à partir de quel âge
C'est tous les tout petits. Je pense qu'à partir de 4 ans, c'est jouable.
Ah ouais.
Quoi.
D'accord.
Un truc comme ça, accompagné évidemment.
Mais on commence à avoir peur des monstres en fait.
Ouais, voilà.
Ça coïncide un peu. Hein.
C'est ça. Ouais.
Okay.
Alors, un petit jeu familial maintenant qui s'appelle Kraken Attack. Donc il l'a fait avec son fils qui s'appelle Esteban Boza. Il est sorti en 2020, donc il est largement trouvable encore aujourd'hui. Il est à Polissonance, il est à Pont-de-Buis aussi. On le trouve partout. Je suis même sûr qu'il est à Plougastel de Volas, à la médiathèque Angela Duval. Donc c'est un petit jeu coopératif cette fois où on incarne des pirates. On va essayer de lutter contre un espèce de kraken qui va essayer de faire couler notre bateau. C'est pas évident.
Kraken, c'est un monstre marin, si jamais vous vous demandez ce que c'est.
C'est une énorme pieuvre.
Ouais,
une énorme pieuvre qui envoie des pleins de poissons sur le bateau. Et le bateau, il a une petite coque et on s'amuse à casser la coque. Donc il y a une grosse tension dans le jeu. Et c'est très amusant pour les enfants. De dire, attention, le Kraken nous attaque et tout. Puis, voilà, donc on peut jouer comme ça. C'est très intense, mais moi j'aime beaucoup et c'est vraiment pas évident. Ensuite, maintenant, pour familial, on va dire familial avec adolescents, il y a un jeu qui est super, que tout le monde connaît, qui s'appelle Takenoko, qui est un jeu dans un univers japonais avec des petits pandas et puis un petit jardinier. On fait pousser du bambou.
Génial.
J'adore. Bah, tu connais ça, Marie,
t'adores. Non, ouais,
non,
c'est non ça.
Je ne connais pas ce jeu.
Donc c'est un jeu objectif, on a des cartes, on doit faire des choses, et puis on trimballe nos petits pions communs sur le plateau. C'est un plateau qui est évolutif, on pose des tuiles comme ça et on façonne un plateau. Et on fait pousser du bambou et puis on fait des objectifs. Et quand on arrive à un certain nombre de cartes, on compte les points, celui qui a le plus de points gagne. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça.
Je trouve que le plateau laisse pas assez de possibilités, moi, si je puis émettre une petite critique.
Alors,
on peut être assez vite coincé.
Alors je te conseille d'utiliser l'extension qui s'appelle les Chibis. Tu vas intégrer la maman panda et les enfants panda.
Ah oui, c'est mieux, d'accord.
Il y a plein de petites choses qui sont assez sympas.
Okay.
Et c'est un jeu qui est édité chez Bombix. Et Bombix, c'est un éditeur quimpérois.
Exactement.
Et ouais. Alors, un autre petit jeu qui est sympathique, qui se joue avec genre Beyblade. Tu sais, c'est l'espèce de toupie.
Les toupies, mais oui, de notre enfance.
Un jeu qui s'appelle Ghost Stories avec une petite souris. C'est super sympathique. En fait, c'est un jeu d'adresse. On tire une toupie et on essaye. On tient le plateau comme ça. Alors pour moi, c'est moins évident, mais on essaye de basculer. On essaye de basculer le plateau comme ça pour faire promener la toupie dans un parcours.
D'accord. Oh là là.
Et on gagne des bonus comme ça et passe le plateau des fois à tout le monde. Donc tiens, j'en suis là. Bah maintenant, c'est à toi. Donc on se passe le plateau, genre de choses. Il y a plein de petites histoires comme
on
ça.
Repas c'est... de Noël.
Oui, c'est ça.
Oui, bah quand on est surtout à la fin.
Oui, bien sûr, quand on est un petit peu consommé.
Voilà. Un autre jeu, alors là, on s'adresse à des gens un peu plus âgés parce que c'est un dungeon crawler, c'est-à-dire qu'on va se promener dans des donjons. Ça s'appelle les donjons de Nahulbuck et Nahulbuck.
Oh,
beaucoup de gens connaissent ça.
Ah non, moi je connais
c'est
pas.
C'est une bande dessinée. Ah, non, c'est je crois pas. C'est une bande.
Moi j'écoutais la radio.
C'est une bande dessinée qui est hyper connue parce que. Alors j'ai plus le nom, je crois que c'est Monsieur Lang. Et Monsieur Lang, il est douarneniste.
Ah bon ?
Et il y a des dessins animés, il y a des BD, il y a des romans.
Il y a des podcasts.
Il y a des podcasts.
Ouais, moi j'écoutais ça.
Il y a plein de trucs qui existent sur Nahulbuck. Et c'est rigolo parce que c'est un jeu, en fait, des trucs d'adresse. Donc on a des cartes. On doit par exemple tenir la boîte dans les mains et le voisin de droite il doit s'amuser à créer un château de cartes dans un temps limite, donc
encore
il y a un timer. Ouais, voilà. On doit par exemple mettre une carte sur la tête et faire le tour de la table avec la carte.
Mais est-ce que le jeu est aussi hilarant que le livre?
Oui, parce qu'il y a tout un petit scénario et t'as des trucs super marrants où il y a des combats avec des monstres et ces combats avec les monstres ça se fait avec des cartes et en fait t'as des feuilles de personnages. Et en fait, tu dois créer des mots. Par exemple, le barbare, lui, il est un peu bête, quoi. Donc, c'est que par onomatopée.
Oui.
Donc, par exemple, Yarbeblarg. Donc, tu dois écrire ce mot-là, par exemple, avec des lettres. Et si te manque des lettres, tu dois crier à la table pour qu'on te donne les lettres. Donc, t'imagines, tu joues à 5, tout le monde joue. En criant, en demandant des lettres, donc c'est un bordel incroyable.
Génial.
Et
oui, donc c'est des jeux qui sont assez physiques quand même, c'est pas qu'un télo. En fait, ben, c'est ça.
Alors là, du coup, c'est des jeux vraiment familiaux, pour s'amuser.
D'accord.
Il y a des jeux que notre ami Antoine Boza a fait, c'est la série des Seven Wonders, donc il y en a trois. T'as le Seven Wonders classique, le Seven Wonders architect et le Seven Wonders duel.
Là, c'est quoi les principes des Seven Wonders?
Alors c'est un mot qui fait toujours peur quand j'annonce le truc, c'est un jeu de gestion développement.
Oui, c'est ça.
Ça reste assez soft dans le style. On joue avec des. On doit construire en fait les merveilles du monde. On doit juste essayer de choper des cartes sur un système de draft, c'est-à-dire un partage de cartes, où on doit essayer de cumuler des cartes, de ressources, et puis on construit des bâtiments qui sont des cartes, on récupère des points de victoire et tout ça.
Mais ça ne dure pas des heures
Non, ça va assez vite. Bah, plus on est, plus on est nombreux.
Il est quand même assez long.
Bah, plus on est nombreux, pire c'est.
Disons qu'à trois joueurs, enfin à deux c'est bon quoi.
Bah, c'est moins rigolo.
J'aime bien quand on est deux.
Alors le truc c'est que le Seven Wonders classique on peut pas y jouer à deux, c'est à partir de trois joueurs et le jeu est réellement conçu pour trois joueurs. En revanche on peut y jouer jusqu'à sept.
Ouais.
Le Seven Wonders architect lui on peut y jouer jusqu'à huit mais on peut y jouer à deux et c'est celui qui est le plus accessible des trois. Voilà, et moi j'ai fait jouer en animation avec Police en Nance, ça passe très bien. Des enfants de 7 ans comme des seniors qui ont 90 ans, ça passe. Voilà, on prend le temps pour expliquer les règles et ça passe. Et le dernier, c'est le Seven Wonders Duel qui là n'est qu'à deux et qui est vraiment le plus difficile des trois. Donc pour ceux qui savent un petit peu jouer, il est bien, il est franchement bien. Et puis il fait aussi pour les gens qui sont vraiment très experts. Dans les jeux et il
comme
a fait et il a fait un jeu qui s'appelle Oltre qui est un de mes jeux préférés.
Voilà, c'est ce que je disais.
Qui est un meilleur pour la fin.
Qui est un de mes jeux préférés parce que c'est un jeu coopératif qui est inspiré d'un jeu de rôle de Monsieur Grump, j'ai plus son nom. Et c'est magnifiquement illustré par Vincent Dutrait. J'ai beaucoup. Et je l'ai fait jouer. Ça, c'est un jeu qui dure à peu près une heure. On va jouer contre le jeu d'abord. Et après, on va essayer de se débrouiller avec tous les petits enfers qui nous met un peu partout. C'est un jeu narratif. Donc, on a des cartes à tourner. On a des textes à lire. On est soumis à un espèce de petit livre avec tout un scénario. On fait rentrer des fois des petites figurines qui sortent un petit
peu de
nulle part.
C'est presque du jeu de rôle, alors.
C'est presque un jeu de rôle. C'est très inspiré.
Un peu guidé, quand même.
Mais du coup, tu es sur un jeu de plateau.
D'accord.
Mais purement plateau, c'est une porte d'entrée vraiment au jeu de rôle.
Ah oui, c'est bien.
Il y a beaucoup de choses. C'est un beau jeu. Et il y a deux extensions qui sont vraiment très intéressantes. C'est Mort et Vivant. Et la deuxième qui vient juste de sortir, que je pourrais je ne peux pas te donner de retour dessus parce que je ne l'ai pas encore essayé. Elle est chez moi, mais elle n'est pas encore...
Pour la saison prochaine.
Qui s'appelle peut-être Monture et Destrier. Et enfin, son dernier jeu, c'est le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Il a coopéré avec le pop en France, qui s'appelle Bruno Catala, et encore illustré par Vincent Dutray, donc sur Le Seigneur des Anneaux, qui est un petit peu basé sur le Seven Wonders Duel. Et si je peux faire une petite annonce, bah Vincent Dutray, je t'aime, fais-moi une petite illustration. Voilà. Donc le Seigneur des Anneaux, ça vient juste de sortir, voilà, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes boutiques. Il n'est pas encore le Seigneur des Anneaux Duel, là, il n'est pas encore en médiathèque, tout ça, je ne l'ai pas vu. J'ai vraiment hâte de le tester. J'ai pu le voir vite fait dans un petit rassemblement de joueurs du côté de Polysonance, et puis voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour pour Antoine Boza. Il a fait des quantités astronomiques de jeux. J'ai pas tout mis.
C'est bien là.
J'ai vraiment mis mes préférés.
Ceux qui sont
vraiment testables. Alors, vous pouvez aller dans les médiathèques. Toutes les médiathèques qui possèdent ces jeux, vous pouvez y aller gratuitement, vous pouvez aller essayer les jeux sur place, vous ne les embarquerez pas chez vous, mais normalement toutes les médiathèques acceptent qu'on aille faire un tour dedans, on n'est pas obligé d'être adhérent pour voir les jeux et voir un petit peu comment c'est avant l'achat. C'est quelque chose que je vous recommande pour savoir si le jeu est effectivement adapté pour vous, si ce n'est pas trop dur, si vous avez besoin de plus d'infos. Vous pouvez aussi aller en boutique, les boutiques il y en a un petit peu partout, donc ils sont toujours de très bons conseils. Il y en a à Douarnenez, à Landerneau, à Quimper, Brest, partout. Voilà, voilà.
Et bonne idée de cadeau de Noël. Bah merci.
Après, ça prend de la place, les jeux.
Mais oui, bah oui. Bah après, on peut en revendre ceux auxquels on joue plus. Alors, je vais terminer avec mon grain de sel. Ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer aussi avec les couleurs de Noël à Trévarez, dont on vous a déjà parlé. Le thème, donc, cette année, c'est la fête foraine. On la retrouve dans le film d'animation qui est projeté sur le château, dans les illuminations du parc. Et aussi dans les écuries, où on peut voir des manèges anciens, des objets liés à la fête foraine. Alors, c'est plutôt des pièces de collection. Mais quand même, les mercredis de décembre, il y a des animations, des spectacles et un manège sur lequel on peut monter, le manège salé de Douarnenez. Hein. Et puis aussi, il y a les jeux, les animations qui sont proposés par Lise Castello, qui est la médiatrice du domaine de Trévarez et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle propose.
Ici, on est dans une petite fête foraine miniature où on peut tester son adresse avec un passe-boule, par exemple. On peut essayer de deviner quel sera son avenir avec une roue de la fortune. Et puis, on peut aussi composer son propre spectacle de monstre ou freak show avec des magnettes dont on compose le corps et la tête suivant son imagination.
On peut laisser aussi ses impressions.
On peut aussi laisser des petits mots en livrant ses meilleurs souvenirs de fêtes foraines. Donc ça peut être des choses liées au sens, les odeurs, les goûts, ou bien des sensations fortes dans les manèges, les trains fantômes, etc.
Et comme toujours, il y a des ateliers pour les familles.
On va accueillir de nombreuses familles aussi en atelier. Donc c'est des ateliers qui vont durer une heure à peu près. Les samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires. Et les familles seront amenées à fabriquer leur affiche de leur propre fête foraine.
Alors attention, les ateliers, c'est les places, il n'en reste pas beaucoup en général. Noël à Trévarez, je vous rappelle que c'est jusqu'au 12 janvier. Je vous rappelle que la réservation est obligatoire si on veut y aller. Alors sinon, les fêtes de fin d'année animent beaucoup de villes et de villages en ce moment. Pas plus tard que samedi prochain, ce sera par exemple à Châteaulin, à 15h30 sur le parvis de la mairie. Il y aura plein d'animations en tout genre, des lectures de contes, le Père Noël, du vin chaud, etc. Il y aura la célèbre fête de la soupe. Vous aurez également des animations au fou. Oui, Davy. Oui.
Ah non, je te laisse finir parce que j'ai un truc à dire après.
Ah bon, d'accord, si, vas-y.
Tu peux y aller. Je rappelle qu'à la médiathèque de Bonduy, vendredi, ils cherchent de la main-d'œuvre pour pouvoir décorer la médiathèque. Ils ont passé le mois un petit peu partout, alors je le redis. Il faut mettre des petits trucs et tout, donc vous pouvez y aller, que vous soyez adhérent ou pas. Même si vous n'habitez pas Bonduy, ils s'en foutent, on peut y aller. C'est ça qui est génial.
D'accord. Sinon, demain, il y a aussi un marché de Noël à la MFR de Rumingol. J'avais dit que je l'annoncerai. Alors je vous le dis, demain, mercredi, à la MFR de Rumingol, marché de Noël. Et aussi des animations au fou samedi également, notamment le Noël fou de l'école d'Yvan du Fou. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à Daoulas, à Argol également, samedi, il y a un marché de Noël. Et là, on est obligé de vous dire au revoir.
Bah oui.
À bientôt.
Salut.
Au revoir.